c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa. Bonjour. Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu voulais faire, Daniel Morin?
Bravo Daniel.
Tu l'as raté. Tu l'as raté. Tu voulais quoi faire? Attends, bouge pas. Je l'ai où? C'est ça que tu veux faire?
C'est raté, vous êtes complètement malade.
C'est raté. Et Charles Lornac est dans le clavier avec nous. Et nos invités sont Camille Chamou et Jean Reno.
Sérieux?
Mais si.
Les deux?
Ouais, les deux.
Les deux, chance.
Donc on a invité Jean Reno parce que évidemment depuis qu'il a maintenant cette liaison avec Leïla Kadour Boudadi, on peut pas faire autrement.
Oui, oui.
Alors, on se quitte plus avec Jean.
J'ai le show business, hein, mon vieux. J'ai des courants comme ça qui arrivent, qui traversent le paf.
Vous étiez invité.
Alors, on veut pas savoir ce que vous faites en dehors de l'émission.
Non, mais non, Jean Reno était invité du 20h de Leïla Kadour Boudadi sur France 2.
Oh. Et je tiens à dire, Jean, que vous m'avez porté bonheur puisqu'on a fait une très très belle audience pour ce journal.
Heureux pour vous.
Vous présentez les infos maintenant, Jean.
Oui.
Il y a tous les talents.
Un avion s'est écrasé il y a 2-3 jours. Ouais. Moi, j'ai pas les détails, mais vous avez l'info là. Ouais. On passe à autre chose, on enchaîne.
Enfin, s'il y avait pas de Français dans l'avion, ça s'arrête là normalement l'information. Si c'est Français, là, on peut faire tout le nuit passé.
Oui, c'est vrai.
Et Leïla, j'exagère
on
ou pas?
On la donne, mais c'est vrai que s'il y a des ressortissants.
Oui, mais dans le JT de Leïla, c'est n'importe quelle nationalité, on en parle.
C'est vrai. Ouais. On se bat pour ça.
Et donc, Camille, ça veut dire qu'ensemble, il faudra qu'on fasse N'oublie pas les paroles, et comme ça, chacun aura sa chacune.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, mais je suis hyper vexée de ne pas encore l'avoir fait.
Elle en meurt d'envie.
Alors, malheureusement, je commence à la connaître et pas du tout. Donc, est-ce que Tom Villa, est-ce que vous au moins, vous avez compris pourquoi nous avons invité Camille et Jean dans cette émission?
Voilà. Là, pour une fois, je pense avoir compris.
J'ai pas l'impression.
Si, je pense. L'un est une légende vivante du cinéma et l'autre est vivante et va au cinéma. Bonjour, Jean-Reno. Bonjour, Tom Villa. Non, attention, j'aime beaucoup Camille. On se connaît un petit peu. Voilà, disons qu'elle a démarré le cinéma il n'y a pas très longtemps, Camille. En revanche, Camille, quand elle est lancée, on ne l'arrête plus. Depuis le mois de novembre, elle a été à l'affiche de 5 films. 5 films en 3 mois. Wow. Même Cadmerade y a dit, là c'est peut-être beaucoup.
Hein, et il y en a 2 en même temps qui sortent avec elle ce mercredi.
Oui, il ne faut pas lui dire.
Bonjour les impôts. Mais qui a dit ça?
Excusez-moi, ça s'est entendu.
Non, et puis Jean Reno, voilà, la classe, Jean fucking Reno, mon idole depuis toujours, manque plus qu'Henri Dess et je m'évanouis.
Non, je t'ai plus, la cour est pleine.
Non, mais en même temps, si on recolle la moustache à Richard Lornac, peut-être qu'il y a des faux airs d'Henri Dess. Richard, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, merci Richard. Léon en face de moi, voilà, ça serait mon rêve d'avoir la chance un jour de jouer à vos côtés. Jean, il a connu la Pantera Rose, il a combattu Godzilla et des Sarrasins à une époque où c'était pas raciste, mais chauvin, le rêve de certains partis. Alors vous venez nous voir tous les deux pour Mes Trésors. C'est un film qui n'a rien à voir avec les deux coffres dans le salon des Balkany. Je dois avouer qu'au début, quand j'ai vu le titre, j'ai eu très peur. Parce que vous saviez que Mes Trésors, c'est le surnom que donne Nagui à ses... Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, non, ils ont pas fait un film sur les deux. Nagui,
tu parles de mes enfants?
Ouais, des millions. Du coup, je me suis dit, voilà. Et Les Trésors, en fait, non, c'est vous, Camille Chamou et Rim Kerichi. Alors, le pitch, Carole, c'est vous, Camille, qui est une informaticienne geek, sexuellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Caroline, Rim Kerichi, quand
Rim Kerici, hein, je sais pas.
Rim Kerici.
Ouais, Kerici. On va l'appeler Rim.
Mais il y a le côté.
Rim,
appelons-la Rim. Rim. Kerici, vous voyez, italienne peut-être.
Oui, Kerici. Ah, est une pickpocket de luxe qui écume les palaces de la côte et toutes les deux vont retrouver leur père. Donc vous, Jean, que vous, Camille, disiez qu'il était mort alors qu'en fait il n'était pas mort, mais vous apprenez qu'il est mort alors qu'en fait il n'est pas mort.
Oui. Il voilà, est bien ça, ce pitch.
Il est bien ce clair, pitch. Hein. J'ai tout compris là.
Non mais voilà, Jean,
qu'est-ce que vous avez dit? Il a rien compris.
Donc c'est une comédie quoi.
Ouais, exactement, c'est une comédie. C'est un peu un mélange de, je sais pas, d'Arsène Lupin et des Bronzés font du ski. D'ailleurs, Jean, vous, votre rêve, c'était tourner à la montagne dans la neige.
Oui.
Il y avait Belle et Sébastien aussi. Et Jean, vous aviez dit il y a 6 mois que le rôle que vous rêveriez d'interpréter, c'est celui d'un compositeur ou d'un musicien, je crois. Eh ben, Jean, vous savez quoi? Vu que je vous aime bien, je vous écris ce petit rôle, rien que pour vous, vraiment, ça me fait plaisir, pour la bande originale, sur France Inter.
Je vous aime. Vous êtes marié?
Pas encore. C'est bien parti, chaud. Jean.
Alors, c'est moi, je suis Jean. Oui. Tom, j'ai une idée de musique. Ça m'a réveillé en pleine nuit, vers 21h. Je me suis jeté sur le piano pour composer. Écoute ça.
Ouais, c'est bien, Jean, mais on la connaît déjà, cette
musique. Non, attends, c'est pas tout, attends.
Si, on la connaît déjà, c'est Au clair de la lune, Jean, je vous jure, c'est...
Ah bon?
Bah oui.
écoute, tu es sûr?
Oui, ah bah oui, si, je suis sûr, j'ai reconnu, en plus...
Bon, autrement, j'ai une autre idée de mélodie pour une autre chanson, enfin c'est un peu ambitieux, mais dis-moi ce que tu en penses. Attends.
Ça, on le connaît aussi, c'est du David Guetta, Jean.
Salaud.
Ah oui, je vous jure. Oui, oui.
Mais arrête, Marot.
Oui, alors bon, la fin, Nagui, j'en étais pas sûr. On signera plus tard, on sait que c'est pas du bon Besson.
Je ne compterai pas si je faiblis.
Ah oui, bah, au moins, ça c'est fait, je pourrais me raconter auprès de mes potes. Merci mille fois, Jean. Je ne sais pas si j'ai tout compris, Nagui, si les auditeurs ont tout compris aussi, mais si vous aimez La Neige, Jean Reno, qui n'est pas compositeur, Camille Chamou, Embraqueuse Geek, mes trésors est fait pour vous.
Merci.
Camilla. Nagui.
Et merci pour l'impro à Jean Reno.
Ouais.
Ah mais même moi je me suis dit non, il joue bien quand même.
Ah ouais, c'est fort. Alors parlons donc de ce film Mes Trésors qui sort demain au cinéma, réalisé par Pascal Bourdieu, où vous êtes Jean Reno, à la fois flambeur mais aussi un génie du braquage. Et justement vous avez deux enfants, l'une étant plus geek, jouée par Camille Chamou, l'autre étant plus bling bling, joué par
Eric. Alors moi je donne des noms italiens, mais alors vous
alors là
que elle va bien le prendre que si je jouis au lieu de jouer.
On fait une petite dédicace à Rime.
Voilà, qu'on embrasse fort partout. C'est une copine, je me permets.
Éloignez vos enfants, c'est
exactement.
Exactement.
Vous aurez compris, si Nagui vous propose d'être sa copine,
tu peux embrasser partout sans aller forcément.
Cet avion, il s'est écrasé où alors? Qu'il y a des Français.
Est-ce que d'abord, moi, ce qui m'a interpellé quelque part, c'est est-ce qu'il y a une once de vérité où tout est fiction? C'est-à-dire, est-ce que ce personnage-là a pu ou aurait pu exister? Est-ce que c'est parti d'un fait divers?
Je crois pas, non.
Du tout.
C'est plutôt parti d'un fantasme, de ces gentlemen cambrioleurs.
Des Arsène Lupin, comme disait
Voilà,
Tom,
des ouais. Arsène oui. Lupin, comme disait Tom, exactement. Et puis aussi du fantasme de films de casse aussi. Je crois que les auteurs, ils aimaient beaucoup les films de casse. Il y en a de moins en moins, en fait. Il y en a plus. Mais dans les années 80, il y en avait beaucoup. Ouais. Les spécialistes, les trucs, les films avec Gérard Lanvin. Machin. Ils adoraient ce genre, qui est un genre très aimé d'ailleurs des Français et qui n'existe plus trop. Et donc, pouf, renons avec le film
exactement.
De casse.
Exactement. Non, mais ça fonctionne parce que, il y a de l'intrigue, il y a du suspense, évidemment, il y a de l'action. Et puis, il y a des vannes. On va heureusement pas les citer parce que c'est foutre en l'air une vanne que de la raconter à la radio, aller la voir au cinéma. Mais il y a vraiment de très bonnes vannes de la répartie, notamment entre les deux frangines où c'est plutôt tendu au début, puisque vous êtes demi-sœurs, vous ne vous connaissez pas, vous découvrez exactement. Au moment de l'ouverture du testament de votre père.
Oui, on est complètement opposés, quoi. On est complètement antinomiques. Et donc, on a vraiment des atouts et des défauts opposés. Et notre père nous a rassemblés pour faire ce casse. Et donc, évidemment, on a un grand mépris l'une pour l'autre au début. Et en fait, on va s'initier à la vie l'une l'autre, quoi. Et moi, je vais apprendre...
Sauf que vous êtes en totale admiration devant...
Moi, je vais apprendre la féminité, la liberté, la sensualité, la liberté de ma sœur. En fait, je suis complètement en admiration devant elle. Je la méprise intellectuellement au début. En fait, je me rends compte qu'elle est très maligne. Et puis...
Il y a une scène. Encore une fois, on va pas le raconter, mais il faut absolument que vous... comment dirais-je? Que vous guettiez cette scène au moment où elle arrive. C'est celle où vous reproduisez comment draguer un mec à propos de ses lèvres. Voilà. J'aime tes lèvres, et après, vous découvrirez la suite. Elle est formidable.
Un peu mythique.
Elle est collector.
Elle est un peu collector.
Je pense qu'elle est déjà culte.
Et d'ailleurs, on voit que finalement, celle qui était la sensuelle, qui transpirait l'érotisme, finalement, c'est pas elle qui va assurer
ce
rôle.
Elle va être une très bonne prof, et du coup, elle va
mission.
Voilà. Exactement. Elle va bien m'apprendre comment effectivement remplir une autre partie de la mission qui n'était pas la mienne au départ. Et puis, en fait, c'est en ça que c'est aussi une histoire de famille, ce film. Finalement, c'est quand même une comédie familiale. C'est fou sur fond d'action, de casse et tout ça. Mais le vrai truc très chouette, moi, je trouve, c'est que c'est un père et deux filles qui se retrouvent. Et ça, c'est complètement universel. Donc moi je trouve que c'est le côté un peu tendre et un peu chouette du film.
Bah oui, parce que c'est un grand voleur, c'est un Arsène Lupin, mais sentimental, parce que quelque part il aurait pu juste se résigner à disparaître, mais il cherche quand même à reconstituer cette famille qu'il a un peu abandonnée à ses débuts, mais il faut le dire.
Il a une part de culpabilité, ça c'est sûr, et il se sert de cet argument du casse pour revenir dans les grâces de ses filles, quoi.
Et les mettre
ça
à l'abri.
Prend un certain temps quand même.
Est-ce qu'on pourrait dire que la délinquance peut rapprocher la famille? C'est un conseil qu'on peut
donner. Ce matin, aux auditeurs de France Inter,
c'est un service public, raccourci que nous apprécions.
Non, c'est vrai, les fêtes de Noël, là, tout le monde s'emmerde à retrouver sa famille. En fait, il suffit de faire un bon casse ensemble.
Un petit braquage.
Ça rapproche tout le monde, les cousins.
Qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Parce qu'on dit que c'est un mélange de films d'action, de suspense, de cascade et d'humour. Dans ce genre de film, sachant que vous avez fait tous ces styles, est-ce que c'est le millimètre de la réplique, le rythme auquel ça doit aller et de ne pas improviser la moindre chose, c'est la précision de la cascade, c'est le travail
qui permet un bon montage et qui permet de faire un film agréable avec de l'humour et du mouvement et de beaux décors. Et, oui, tout ce que vous avez dit. La
Jean, précision. Il est très marrant parce qu'il fait des blagues, sur le plateau. Bon, au début, je vous cache pas qu'on est quand même très très impressionné quand on joue avec Jean Reno au début, sauf qu'il fait des blagues. Et par contre, dès que ça dit action, il est hyper précis. Donc en fait, il faut vraiment pas se faire piéger, parce que lui, il est vraiment capable de faire une blague une seconde avant.
Ah, vous déstabiliser.
Non, pas du tout, parce qu'il est comme ça, dans la bonne humeur du plateau, crac cric croc, je vais faire une blague au titre derrière.
Voilà, oui, vous êtes très dans
je suis tout en interjection aujourd'hui. Et en fait, après, ça commence et paf, précisément. Et ça, c'est une bonne leçon.
Jeune maman, non?
Et boum, c'est ça.
Et blague.
Je suis trop habituée à parler à mon fils de 1 an et demi.
Je reconnais le langage de ma femme.
Ça fait un moment que vous n'avez pas vu des adultes, en fait. C'est ça qu'on dit. Quand on reste coincé comme ça, plus de 3 jours avec des enfants, après on parle mal.
Ça va, Nagui?
En fait, au mieux, il y a une interjection qui est importante, c'est le clap.
Voilà,
c'est ça, c'est au moment.
Michel Galabru était comme ça.
C'est vrai aussi.
Michel Galabru racontait des histoires jusqu'à la dernière seconde. Et le seul qui était dedans, c'était lui, donc il fallait faire gaffe.
Est-ce que pour vous, c'est une manière de vous détendre et de renouer avec le personnage, ou c'est juste votre côté bon copain avec l'équipe de tournage et les...
J'aime l'idée qu'on est ensemble. Je n'aime pas du tout l'idée de...
Oui, mais pardon, mais faire rire les autres juste avant qu'on dise moteur, c'est pas rendre service.
Non, quand même, c'est pas en piège, c'est vraiment en détente.
Michel le faisait jusqu'à la fin. Moi, je le fais parce que j'aime l'idée d'être ensemble. Et quand tout le monde rit, ça me fait énormément plaisir.
Et vous le permettez que sur les tournages français ou même les tournages internationaux?
Non, partout.
Je m'en fous.
Il fait des très bonnes blagues en chinois.
Ah oui,
Non, mais j'ai vanné sur les plateaux américains, anglais, partout. J'ai vanné Tom Cruise, j'ai vanné Steve Martin...
Et
je lui ai dit, toi, tu es comme la sauce tomate, de toute façon. Il me dit quoi? J'ai dit, oui, t'es concentré.
Est-ce que finalement, la recette que vous donnez dans le film est celle aussi pour votre métier? De mémoire, il y a les 3 P, hein, préparation, prévision, précision.
Et voilà. Exécution ou quelque chose?
Non, précision, bravo, Nagui.
Préparation, prévision, précision.
Voilà, bravo, magnifique. Waouh. Quelle mémoire.
Vous devriez voir votre film, il est pas mal.
Wow. Mais moi, je l'ai mal vu parce que je l'ai vu.
Et surtout, vous l'avez fait il y a un an.
Quand on l'a doublé.
Ah oui, ça
j'ai pas vu propre,
ouais,
comme on dit.
Il y a pas qu'une phrase originale, non, pardon.
J'ai du mal.
C'est en chinois.
Tout a été tourné en russe, puisque c'était à Courchevel.
Et vous savez que Jean a vraiment fait un film avec les plus grandes stars chinoises et qu'il a fait un film chinois juste après nous.
Je te remercie, c'est mon
agent. J'adore cette histoire parce que, enfin, c'est fou quand même.
Oui, enfin, c'est la plus
d'avoir
Toyota.
Fait un film
c'était
chinois.
Mais
non,
chinois.
Un film chinois avec des énormes stars chinoises.
Et Fan Bingbing et Andy Lo, ça s'appelle Les Aventuriers, ça sort en août 2017 à Pékin. Donc,
génial.
Il y a des avions qui partent.
C'est un film d'action?
Un film d'action, absolument.
Vous êtes sûr?
Ouais.
J'ai hésité 10 secondes là.
Le film qui rate en Chine, il fait 3 millions de spectateurs. Le film raté vraiment en Chine, il fait 3 millions de spectateurs. Il y a 1 milliard. Hein,
alors, comme vous avez été confronté à tous ces registres au cinéma, est-ce que, évidemment, le plaisir et le luxe pour un comédien comme vous, c'est de pouvoir tout jouer et tout interpréter, vous avez quand même un registre préféré?
Non. Ça dépend de ton humeur. Il y a des moments où tu as envie de jouer une comédie. Alors tu te dis, tiens, si jamais il y a un scénar comique qui arrive, je vais y jeter un vrai œil. Ou d'autres fois... Moi, en ce moment, j'ai envie de faire quelque chose de très social, quoi. quelque chose qui parlerait de,
pour déjà France Inter, c'est un bon début.
Vous êtes sur la bonne station.
J'ai envie de faire ça. Bon, si ça vient, ça vient.
Parce que le précédent film, c'était un film très tendre. C'était L'Aigle et l'Enfant. C'était aussi encore autre chose. C'était très très beau, très calme et apaisant.
Oui. J'étais content de faire ça.
Ouais.
Ah oui, non, c'était émouvant. Ceci dit, il y a toujours aussi un rapport avec l'enfance. Là, elles sont plus grandes, mais il y a un rapport quand même de père. Il y a moins d'aigles. Ah, quoi qu'il y a des rapaces.
Du lien, absolument.
On me voit comme ça.
Il y a des rapaces dans le film quand même.
On me voit comme ça, oui.
C'est ça, oui. Il y a un côté protecteur. Finalement. Oui. Sauf que là, dans le film, vous êtes un tout petit peu paumé par la vitesse à laquelle les choses vont et sans dévoiler évidemment la chute du film. Ouais, on a l'impression que vous êtes non pas le manipulateur, mais le manipulé dans le film.
Complètement, complètement. Mmh. Il se raccroche aux branches et il se raccroche à ses filles. Mmh. Et en fait, la fin prouve. Enfin, on ne va pas raconter, mais la fin prouve que une famille, ça reste une famille.
Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Mes Trésors. C'est demain que ça sort au cinéma et on vous encourage à y aller, notamment en famille, parce que alors le paradoxe, c'est bon. Ouais, une bonne partie de rigolade. Le paradoxe, c'est que Camille, vous serez en face de Camille.
C'est vrai. C'est vrai. En termes de sortie de cinéma.
Et oui, c'est ça. Il y a deux films qui sortent en même temps. Où
oui,
vous jouez, l'autre avec Jennifer
Barthes. Qui sort le même jour. Ouais,
voilà. C'est lequel le mieux?
C'est une très très bonne question. C'est des genres tellement différents.
Ouais, faut aller voir les deux.
Et on n'a pas parlé de Pascal de Molon.
Oh, mais il est extraordinaire, Pascal de Molon. Il y a Pascal de Molon, Bruno Sanchez, Alexis Michalik. Il y a des garçons super. Et Pascal a vraiment un rôle extra et très très sexy.
Bruno est votre amoureux.
Et Bruno est mon amoureux. Ouais. Je l'adore. Il a de la chance. Mignon.
Ah, mais vous étiez bien entouré.
J'ai essayé, mais j'ai pas pu.
Bruno a pas voulu.
Bruno a pas voulu, merci. Mais elle est au théâtre, Camille. Hein,
elle est aussi au théâtre du Petit Saint-Martin.
Oui, tout à fait.
Du mardi au samedi, et ce jusqu'au 30 mars. L'esprit de contradiction.
Vous êtes chaud de mort.
Et mise en scène par une autre Camille, c'est Camille Cotin.
Tout à fait,
c'est le gang des Camilles.
Qui était venu dans cette émission.
Ouais. Le dernier mot, c'était sur Camille Chamou.
Exactement.
Ouais. Oh,
le dernier truc qu'elle ait dit à ce micro avant d'être arrêtée par la police était aller voir Camille Chamou. voici.
Non, les oreilles ont sifflé.
Moi, j'ai pas compris. Il y avait une.
La consternation de Leïla.
Non, rien.
Non, je croyais que j'avais loupé une info dans l'actu. Non,
un truc qui s'appelle.
Non, c'est
Cotin. C'était juste une vanne absurde dans laquelle tu n'es pas.
Ah bah j'ai pas compris.
Tu n'as pas adhéré.
Cherche le sens partout, c'est le problème en fait.
Tes oreilles ont sifflé lorsqu'on t'a annoncé la venue de Camille Chamou et de Jean Reno.
Bien sûr, immédiatement, j'ai pensé à vous, Camille Chamou, et j'ai pensé à une femme, à une auteure, à mon sens, décisive dans la pensée du féminisme actuel, même si ce n'est pas sa vocation première, on écoute sa voix.
J'ai été vraiment frappée par les féministes américaines des années 90, de celles qu'on a appelées les féministes pro-sexe. Ça m'intéresse de réfléchir qu'est-ce que c'est que le porno pour les femmes et pourquoi ce serait dégradant. Ça m'intéresse de réfléchir qu'est-ce que c'est que la prostitution, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête et pourquoi on devrait en avoir peur. De réfléchir à qu'est-ce que c'est que la sexualité féminine pour les femmes, quoi, hors mariage. Ça m'intéresse de se réfléchir à qu'est-ce que c'est que la masculinité, énormément. Pourquoi est-ce qu'on peut pas, pourquoi est-ce que ça doit être la masculinité aux hommes et la féminité aux femmes, et pourquoi pas chaque individu de faire au moment où il sent de le faire exactement ce dont il a envie, quoi.
Voilà, 11h22 sur France Inter, et on écoute Virginie Despentes, ça me fait très plaisir, grâce à vous, Camille Chamou.
On peut refaire 11h23 si vous voulez.
Vous avez joué dans Bye Bye Blondie.
Exactement.
Et vous dites aussi que une de vos bibles, en fait, c'est King Kong Theory, toujours de Virginie Despentes.
Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça a suscité chez vous?
En fait, je trouve que c'est vraiment une philosophe en fait de notre époque. Et d'ailleurs, je l'adore comme auteur. Hein. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs les trois derniers opus, la Vernon Subutex. Je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est une grande auteure contemporaine. Vraiment, c'est une plume exceptionnelle. Et je trouve que dans King Kong Theory, elle développe une pensée. Vraiment passionnante sur qu'est-ce que c'est la féminité, qu'est-ce que c'est avec des choses très très profondes et très étonnantes. Par exemple, elle parle du viol d'une manière extrêmement étonnante et qui renverse un peu le regard. Et je trouve que c'est une pensée maîtresse d'aujourd'hui, vraiment.
Oui, elle n'hésite pas à poser des questions, quitte à ce que les réponses ne conviennent pas à la société du moment, mais en tout cas, elle interroge.
Exactement.
Et à dire clairement les choses dans leur crudité.
Oui, et puis elle a un itinéraire aussi individuel qui fait que sa parole est un peu plus crédible que celle de la moyenne, parce qu'elle est passée aussi par pas mal d'étapes assez difficiles, donc elle a une vision, notamment sur la prostitution, dont on a tous à peu près une idée, mais elle, de l'intérieur, elle a un point de vue qui n'est pas inintéressant.
Daniel, donc, il a un tarif, surtout.
Non, on appelle ça un abonnement.
Et vous dites que grâce à elle, vous avez lu les théoriciennes américaines, vous avez lu qui sur les théories du genre ou du sexe?
Oui, en fait, c'est par Virginie Despentes, c'est elle qui m'a exposé, voilà, justement, ça a fondé un petit peu sa pensée, et donc, mais après, moi, c'est pas les théoriciennes américaines, c'est que c'est plutôt, il y a des femmes comme ça, des paroles de femmes qui sont très, très importantes dans ma vie, il y a Virginia Woolf aussi, voilà, il y a une chambre, pour moi, les deux bouquins que je souhaiterais à n'importe quelle fille de lire à 18 ans, je sais pas comment dire, c'est Une chambre à soi et King Kong Theory, qui je trouve sont des essais très importants sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre, et que la liberté ça a un prix, et que c'est important de le savoir, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que toute la pensée de Virginie Despentes, c'est ça. C'est oui, vous risquez des choses quand vous êtes libre, et quand vous sortez de votre chambre, et voilà.
Mais et vous êtes passé comment de Virginie Despentes à Laurence Pernoud
Alors c'est intéressant. Non, et Laurence Pernoud, d'ailleurs, je n'en parle...
Dans le spectacle.
Tout à fait, mais en fait, Laurence, j'en parle plus maintenant, je l'ai coupé le bout sur Laurence Pernoud, d'ailleurs, mais...
Comme le cordon ombilical, c'est pourquoi.
Ouais, c'est ça. Non, Laurence Pernoud, c'était plutôt une petite critique amusée, parce que Laurence Pernoud aussi, elle parle... Parce qu'il y a tout un ensemble de littérature. Quand j'ai eu un enfant, j'ai constaté qu'il y avait tout un ensemble de littérature sur la natalité, la maternité, etc., qui parlait du lien privilégié de la mère à son enfant. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais là, mais privilégié par rapport à qui? Enfin, au papa, quoi, ce baroudeur qui va gagner la croûte du foyer? Enfin, je comprends pas, en fait. C'est-à-dire que je me disais, c'est hyper bizarre, toute cette littérature. Enfin, aujourd'hui, le père, la mère, c'est la même chose. En fait, tout le monde ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir un lien. Avoir un lien privilégié, je trouve ça hyper ringard. Pourquoi la mère aurait un lien privilégié?
Et donc, je dis, parce qu'elle le porte.
Oui, mais attends, Jean, tu peux pas me dire ça alors que toi, t'as tellement un lien privilégié à tes enfants.
Ah, mais je pense quand même comme Jean que les mamans sont reliées à vie.
On est sont,
non, mais moi je les laisse venir,
Non, je pense vraiment que vous êtes reliés en Wi-Fi permanent avec les enfants.
Plus en que Wi-Fi, nous. C'est un joli en truc. Ouais, en Bluetooth, c'est pas là.
Oui, c'est 90 déjà.
Je pense que
Bluetooth. Tant que faire.
J'ai juste une petite image, c'est que la femme évidemment va accoucher, donc l'enfant va sortir de son corps.
Jusque là, je vous suis.
Jusque là, c'est assez simple. Il va re-rentrer. En fait. Parce que quand t'accouches, tu regardes cette petite chose qui arrive et c'est pas encore rentré dans ton cœur. Et ça re-rentre par le cœur et les yeux, ça met un certain temps.
Oui, mais les deux...
Et là, ça devient ton enfant en tant que mère. C'est une théorie que j'ai, moi. Le père, lui, il le voit et il va le faire rentrer ou pas. Ça, c'est son histoire. Mais la femme aussi.
Tout à fait. Bah, c'est pour ça, finalement, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que ça sort de toi qu'il faut
Je suis d'accord avec le privilège.
Nous, chez nous, on ne laisse pas rentrer. On ne laisse pas rentrer chez nous. Il gratte à la fenêtre.
Toujours est-il que vous l'avez... C'était plus pour la charrier, en tout cas, dans sa manière ce guide pratique de comment être une bonne mère.
J'aime beaucoup comme elle parle, parce qu'elle a beaucoup d'authenticité. Et ça s'entend.
Et après un petit moment de douceur, en revenant dans un monde de brut, parce que Jean Reno, quand je pense à vous, vraiment, je vous revois dans Nikita, et vous êtes ce nettoyeur incroyable aux côtés d'Anne Parillo, un film culte dont on doit encore vous parler.
Putain, il vaut mieux que j'ai téléphoné pour avoir des instructions, hein. Victor, non, Victor.
J'ai pas l'habitude d'arrêter l'émission en cours, moi. Alors on va rien appeler du tout, et on va la finir cette mission. Sinon, je te dissous la gueule, c'est clair.
Il est méchant, hein.
Méchant et mythique.
C'est pas gentil.
Dit comme ça, on dit oui, quoi, après.
Il est magique. Dans toute votre filmographie, Jean Reno, quel est le rôle dont on vous parle le plus souvent?
Léon.
Toujours, c'est Léon, oui.
Ouais.
C'est Léon?
Léon, oui.
Pas les visiteurs, pas les...
Wasabi, non, très peu.
Un peu, plutôt en Asie, évidemment. non, mais c'est... Oui, des visiteurs, mais c'est Léon, quand même, qui reste le...
Ah ouais, Léon, c'est culte. Ah,
et pourquoi, pourquoi, d'après vous, c'est Léon qui a marqué autant? Pourquoi, moi, quand je pense à vous, je vois tout de suite Léon?
J'ai vraiment pas d'idée, parce qu'il faudrait un sociologue ou...
Ah ben non, mais il y a tout. Il y a la réalisation, il y a Gary Oldman, il y a Nathalie Portman, le trio de...
Il y a la plante verte qui ne la tue pas, en étant un assassin. Je peux oublier que c'est un assassin. Et il ne la tue pas. Donc les gens se sentent touchés par ce parce que c'est une poule, hein. Il a un petit cerveau quand même. Hein. Il a un grand couteau pour tuer les gens, mais c'est pas. Ouais. Il a un QI limité, quoi. C'est un spécialiste avec un cerveau de poule. On se disait ça avec Luc Besson pendant qu'on tournait. On avait des doutes sur des scènes. Il disait, n'oublie pas qu'il a que c'est une poule devant un peigne.
C'est pas drôle.
Oui, mais ça
c'est pas drôle. C'est pas drôle. Genre, c'est pas
j'ai
drôle.
Des poules à la maison.
J'ai eu des peignes.
Ça parle pas de ma femme.
J'ai eu des peignes.
J'en avais 9 et le coq en a tué une. Il y en a une autre qui a disparu et une autre qui est morte. Il m'en reste 6.
Vous savez que c'est vrai, il parle tout le temps de ses poules, Jean, et vraiment, de ses poules, vraiment
ouais,
l'animal.
Les poules. Oui,
poules. Il a dit aussi.
Non, mais c'est vrai, il a une maison dans
moi,
le sud.
Moi, j'ai trois poules.
J'ai plus que 6 poules. Ouais. Je suis pas très bien.
Ouais. Moi, dis-moi, j'ai 3 poules.
Moi, j'ai pas de coq qui sont mortes aussi.
J'ai pas de coq. Ne prends pas de coq.
J'ai pas de coq. Non, j'ai pas de coq parce que déjà, le.
C'est le point commun de
cette conversation.
Cette
conversation est vraiment en train d'avoir lieu.
Mais tu as les œufs de tes poules
tous les matins.
À une époque, je vivais en coloc avec mes amis Thibaut et Grégoire et. On avait une poule.
En 4 minutes, on est donc passé de Virginie Despentes à.
Avoir une poule domestique.
J'ai une poule.
Avoir une poule.
On va toujours dans une poule.
Je vous rappelle qu'on est en période de grippe aviaire. Ah,
ouais. Moi, je me crève pour parler féministe. On finit avec des poules.
Ouais, mais c'était voilà,
Léon.
Mais
ce sont des êtres vivants. Écoute, respectons aussi les poules. Autre chose à dire?
Bah non, mais à part non, là, je suis sans voix, là. Mais en fait, je pourrais.
Je pourrais en faire
des tonnes avec Jean Reno, avec Enzo.
Tu peux en faire des tonnes, il reste là jusqu'à midi.
Les visiteurs, avec. Mais bon, on a le temps.
Tu es fan, j'ai compris. Mmh. Elle est amoureuse, j'ai compris. Ouais. Voici l'humeur de Frédéric Siglis, monsieur. Enfin!
Bonjour, messieurs, dames. Alors, je vous préviens, je ne souhaiterais la bonne année à. Personne.
Bonne année à toi aussi.
Non. Hors de question, ça fait 2 ans qu'on se tape des années qui sentent la couche confiance. Donc si vous passez une année 2017 de merde, cette fois-ci, vous pourrez pas m'accuser de publicité mensongère. Les vacances de Noël sont finies. Et je vous jure, Nagui, pour moi, vous êtes ce que Nicolas Sarkozy était pour Ingrid Betancourt. Un libérateur. Merci. Merci de me donner du travail, de m'éloigner de ces monstres qui viennent de me pourrir les 7 derniers jours. Non, je parle pas de mes gosses, étonnamment. Oh, hein, pour une fois, ils m'ont été utiles, je parle de ma famille. C'est pas une famille que j'ai, c'est un clan de hyènes. Si j'avais pas eu un gosse à lancer à une grand-mère ou un grand-père pour faire diversion, je pense qu'à l'heure qu'il est, il serait encore en train de me casser les couilles. Et les petits-enfants, c'est formidable pour ça. Ça occupe tes parents. Et avec un peu de chance, s'ils sont hyperactifs et qu'ils sont un petit peu âgés, eh ben ça peut même te débloquer un héritage plus tôt.
Oh non.
Alors comme chaque nouvel an depuis 6 ans, j'étais sur scène, hein, parce que j'aime bien jouer le 31. Et parce qu'en général, le public se ruine pour voir un spectacle qu'il aurait vu 3 fois moins cher s'il était venu la veille. Voilà. C'est plus cher parce que le 31, le théâtre sert un verre de champagne dans un petit gobelet en plastique. J'en conclus que la bouteille de champagne a un bien meilleur cachet que moi. Ah, du coup, ça fait 6 ans qu'à minuit, je suis dans le métro ou dans le RER au passage à la nouvelle année. Alors, il faut choisir son compartiment de manière très judicieuse hein, quand tu prends un RER la nuit du nouvel an. Parce que l'année dernière, à 23h58, j'étais tout seul dans un wagon quand soudain, 5 sans-abri sont montés. Et vu comme ils étaient torchés, je pense qu'ils étaient le premier depuis le 12 décembre. Et là, j'ai paniqué. Non pas que j'avais quoi que ce soit contre eux, mais je me suis dit, merde, il est 23h58.
La bise.
Pourvu qu'à minuit, je sois pas. Et en même temps, si j'étais quelqu'un qui avait de la chance, je ne serais pas dans un RER le soir du Nouvel An. Ah, et ça a pas raté. À minuit, ils ont hurlé avec un litre de rouge à la main. Ils ont cherché du regard dans le wagon s'il y avait quelqu'un avec qui partager leur voix et avec leur joie. Et il y avait que moi. Et là, j'ai vu un gros Albanais avec une moustache datée au carbone 14. Hein. Enfin, c'était pas une moustache, c'était un journal intime. Il y avait 6 ans de sa vie là-dedans. Et qui m'a fait 3 gros bisous baveux. Voilà, à minuit, 01. Enfin, je vais vous dire, dans ces moments-là, tu mets à l'épreuve tes convictions de gauche. Hein. Peut-être que je faisais genre, je riais, je rigolais, tout ça, mais j'avais qu'une envie, c'était boire une bouteille de desktop. Hein. Du coup, maintenant, je fais gaffe. En plus, je vous l'avoue, cette année, j'avais pas le cœur à la fête parce que 2 jours avant, j'avais appris la mort de Carrie Fisher, la princesse Leia, dans Star Wars. Alors, je sais bien que vous connaissez pas Star Wars, hein, mais si vous voulez, Nagui.
Non, je connais.
Et ben voilà, je vous explique.
Mais j'ai pas vu.
La princesse Leia, je vais faire un résumé. La princesse Leia,
il faut pas dire la vérité alors.
Hein? Oui, toi tu connais.
Oui.
Tu l'as vu toi.
T'avais fini ta chronique.
Non mais là ça va pas finir. Si vous voulez Nagui, la princesse Leia c'est Simone Veil pour les geeks. Voilà, c'est la chef de l'Alliance Rebelle. Un mélange entre Édith Piaf et Jean-Luc Mélenchon. La princesse qui fait 1m50, 40 kilos tout mouillé, mais qui a pas peur de vanner Dark Vador ou un Wookiee de 2m10. Depuis tout petit, pour moi, une vraie femme, c'était la princesse Leia dans Star Wars ou Sigourney Weaver dans Alien. Faut dire que les vraies femmes, en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'en approche des vraies. En fait, ouais, hein. Alors évidemment, la question que tous les fans se sont posés à l'annonce de son décès, c'est pas noble, mais on s'est tous demandé, mais est-ce qu'elle a terminé de tourner ses scènes dans l'épisode 8 qui sort cette année? Hein, j'ai un peu honte. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à m'être posé la question, parce que Disney aussi, qui produit, hein, s'est aussi posé la question, parce qu'ils ont contracté pour elle une assurance vie de 50 millions de dollars en cas de décès. Donc c'est-à-dire que quand ils ont appris sa mort, hop, Disney a touché 50 millions de dollars. Et franchement, je suis acteur. Une boîte de production passe une aussi grosse assurance vie sur moi, je sais pas si je me sens flatté, ou si je me demande s'ils savent pas un truc sur mon état de santé que j'ignore. Parce qu'une semaine avant, évidemment, moi j'avais vu Star Wars Rogue au cinéma, un film dans lequel joue Peter Cushing, un acteur brillantissime, britannique. Un seul détail, il est mort depuis 35 ans. Oui, mais il était bien, bel et bien là, en image de synthèse, continuant à jouer comme si de rien n'était. À la retraite à 65 ans, Hollywood, c'est un débat qui leur passe au-dessus. Les acteurs prennent déjà pas leur retraite même quand ils sont morts. Alors, j'ai beau être fan, ça m'a choqué. Et je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire que quand un acteur incarne un personnage à l'écran, son image lui appartient plus ? Et les Indiens d'Amérique pensaient que se faire prendre en photo, c'était se faire voler son âme. Ouais. Et ben Hollywood vient de leur donner raison.
Merci. C'est vrai,
ce qu'il a dit. En fait, ton image ne t'appartient pas.
Oui,
puisque c'est l'image du personnage. Par contre, si on fait faire quelque chose de dégueulasse au personnage,
il y a un droit moral, il y a quelque chose à dire.
Voilà, on peut.
Donc n'importe qui peut acheter des images de vous.
Non. Pour l'utiliser à côté, ouais. Non,
mais dans le film.
Pour l'utiliser dans la même histoire, ouais. Oui.
Donc le grand bleu d'accord. Suite, on pourrait ouais, l'utiliser.
Voilà. On pourrait, à part, enfin, il apparaîtrait comme ça en sortant d'un nuage avec une plume dans le cul. Ouais, il viendrait du paradis ou quelque chose comme ça.
Ils ont recomposé, je suis complètement à la ramasse.
Là, comme il y a les Jedi.
Et il joue avec les autres acteurs. C'est Peter Cushing, mais le type est mort depuis 35 ans.
Là, pardon, Jean, j'ai pas vu l'image dont tu parles. Il est en image de synthèse.
Oui,
mais on s'en rend compte.
C'est l'image de synthèse.
On s'en rend à peine compte.
Ouais, c'est la même histoire.
Mais c'est donc fascinant.
Il y a Leïla aussi.
D'accord. Et oui, qui a rajeuni dans le film à la fin. Mais c'est terrifiant quand même d'un point de vue moral sur ce que ça veut dire sur le cinéma. Vrai.
Est-ce que ouais, vous en pensez quoi, vous, les comédiens, justement, quand vous entendez toutes ces histoires?
C'est terrifiant. Mais c'est terrifiant, ça fait que c'est comme si on était potentiellement un hologramme exploitable, je sais pas comment dire. C'est vrai, c'est la dépossession de soi-même.
Mais quand l'histoire le permet, si l'histoire ne le permet pas, ils le feront pas.
Oui, t'as raison.
Parce que c'est contre eux-mêmes. Mm-hmm. Mais là, dans ce type d'histoire où t'as des gens qui reviennent du passé.
Sur Star Wars, il y a un vrai problème pour eux, c'est-à-dire que c'est un personnage clé de.
Ils étaient obligés. La
vous n'avez pas vu Nagui, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Mais non, comme quoi,
Non, c'est pas la seule.
Il y en a 3 ou 4 qui reviennent comme ça.
Mais il y avait eu Fast and Furious aussi avec l'acteur qui était Paul décédé.
Mais c'était son frère, c'est quand même un rôle clé,
un rôle important. Ouais. Le fait qu'il soit assuré, j'imagine aussi que les 50 millions de dollars dont tu parles, il y a quand même des cotisations. Ils ont payé cher pour avoir cette assurance-là.
C'est ce que j'ai pensé tout de suite.
Ouais, c'est-à-dire
que. Oui, non, mais c'est sûr. Mais en fait, c'est surtout pour pouvoir réécrire un scénario.
Il y a bien
Claude
François qui revient là pour nous chanter quelque chose.
C'est vrai?
Oui, il y a le spectacle de parade avec plein de stars, Mike Brandt, Dalida, Claude François.
On a Nagui en vrai.
Et le pire, c'est la pub qui dit réalité ou illusion. Voilà. Est-ce qu'il y a un doute sur le fait qu'il y a Dalida et Claude François?
Oui, c'est ça.
Tout ça pour vous dire,
cas, réalité.
Les taratata avec ces chanteurs-là, ça va être très compliqué.
Réalité, en tout cas, nos invités sont Camille Chamou et Jean Hénon. On va évoquer quelques dates. On rappelle quand même la date de demain, c'est-à-dire la sortie au cinéma de Mes Trésors, mais quelques dates de votre carrière. Ou des dates où vous vous croisez d'ailleurs un tout petit peu, on va raconter ce qui s'est passé en 83 par exemple pour Camille.
T'as le look, coco.
Et ouais, écoutez ça, Camille. Et alors
coco, t'as le look.
C'est surtout maintenant que je l'écoute.
C'est vrai?
Oui, parce que mon fils, je l'appelle Coco, alors je lui fais écouter T'as le look, coco, et on fait décorer sur La Roche-Valmont.
Bon, il a qu'un an, rassurez-moi, votre fils.
Il a un an et demi, ouais, parce que dans 2 ans, il me dira qu'est-ce que tu me fais écouter, quoi.
Vous dites avoir attrapé le virus du théâtre en voyant Michel Serrault dans la VAR.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais très petite, je devais avoir 6 ans, je crois. Et en fait, il faisait le monologue sur ma cassette, là. Et à un moment, il descend. Et c'était la première fois que j'allais au théâtre, j'étais entourée de mes deux parents. Et il descend, et j'étais au 3e rang, et il est passé dans les rangs. Oh, ma cassette, que j'ai suivi par
comme,
une poursuite.
Comme, et moi, si, comme, j'ai si, comme s'il fouillait bloqué. Dans le théâtre où
mais
était
oui,
la cassette.
Comme si je cherchais. Et moi, j'ai bloqué, je voyais quelqu'un sur scène. Alors, c'était complètement mythique, j'étais comme un guignol ou je sais pas quoi. Et d'un coup, il passe devant moi, mais j'ai cru.
Comme s'il sortait de l'écran.
Mais vraiment, c'était fou. Et j'ai
c'est
dit,
un
je
veux
absolument
en fait.
Faire comme le monsieur là. Wow. J'étais en fascination totale. J'ai voulu aller le voir dans les coulisses et tout. Enfin, j'étais en fascination.
Ça m'a fait
je
la
dois...
même chose à un meeting d'Emmanuel Macron.
Il est sorti de lui-même.
Il est monté sur une chaise, il s'est mis à écrire.
Et je me suis dit, tiens, je voudrais bien le. Ouais.
On parle de musique avec Jean Reno, on en a parlé tous les deux hors antenne juste avant, il fallait que nous écoutions Michael.
Allez, viens.
Michael Moreno, donc votre fils en duo avec Magali Courkin dans ce titre Allez viens, dans ces années 80, votre fils est né en fait, vous aviez tourné Subway, c'est par rapport au, pour se resituer par rapport à Subway, vous étiez papa dans Subway déjà?
Je pense oui, parce que j'ai une fille avant, c'est quand, c'est en 85,
ah oui,
et
oui.
Une fille qui a 39 ans. Qui
ressemble au personnage de Camille d'ailleurs.
Un peu.
Dans le film.
Un peu, ouais. Michael, il est né en 80, Michael. Et ce bouet, c'est 84, non?
Ouais, c'est ça.
C'est ça, donc j'avais déjà Sandra.
D'accord, très bien.
Michael, ouais. Il vient d'enregistrer à Stockholm. Et il travaille avec la demoiselle qui a chanté dans Mustang. Qui est d'origine algérienne. Pardon, je n'ai pas son nom, mais elle est dans la bande son de Mustang, ce film qui a eu beaucoup de prix.
Mais quelle est la place de la musique dans la famille? Parce que vous étiez batteur en l'occurrence dans Subway,
ouais.
Ça c'était un rôle. Est-ce que vous jouez vous d'un instrument?
Oui. Je fais des sons avec pas mal de choses.
Je parle de musique.
Ouais. Non, mais mon oncle était chanteur d'opéra, si c'est ça la réponse.
Voilà.
Donc une graine. Ma sœur a repris parce qu'elle chante du classique et Michael a repris vraiment. Michael a une voix incroyable, mais vous savez comme moi qu'il est très difficile de percer, comme on dit dans ce métier-là. Donc voilà, il suit son bonhomme de chemin. Il arrive à gagner sa vie, ce qui est pour moi me rassure.
Ce qui est déjà pas évident dans le monde de la musique aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est vrai. En 96, Jean Reno, vous jouez dans Mission Impossible et vous écoutez Stokis.
Incroyable. Vous connaissez l'histoire de la composition de cette chanson?
Racontez-nous.
Il s'est réveillé, Keith Richards, et il a joué le riff, il a joué les accords de guitare.
Trois notes, oui.
C'est ça? Et il s'est endormi.
Et donc, c'est vrai que c'est incroyable.
Il s'est rendormi le lendemain.
Mais qu'il est fatigué au bout de trois notes.
Voilà. Il y a 45 minutes de ronflement. Sur la cassette. Presque. Voilà. Donc c'est vrai, c'est comme ça que c'est sorti et l'autre a écrit King Gator.
En fait, Jean Reno, il peut te raconter n'importe quoi. T'es obligé de dire oui, parce que si t'es pas d'accord, t'as peur.
Non, parce qu'il raconte bien aussi.
Et tu sais, oui, c'est ça. Et tu sais pas trop où est la limite entre la vanne et la vérité.
Mais moi, j'ai très peur parce que Jean Reno qui parle d'une démonstration, une démo cassette de 45 minutes de ronflement, j'ai peur que ça parle à la programmation de France Inter et qu'il le diffuse.
Ouais. Oh, intéressant. Ouais. Ouais.
Vous acceptez de jouer dans Mission Impossible, mais vous avez entre guillemets raté Matrix. Et vous avez dit.
Je n'ai pas raté.
Vous avez dit dans une interview.
On va pas parler de choses qui ne sont pas faites. Je n'ai pas raté du tout. C'est une période de ma vie où j'avais pas envie d'aller vivre en Australie pendant 5 mois, voilà. C'est tout.
T'as compris, Nagui?
Ouais.
Voilà. Donc c'était uniquement une question d'emploi du temps.
J'ai des témoins de ce que je dis, Nagui.
Je vous mens pas des preuves.
Toujours des témoins de ce que
non,
je dis.
Non, mais je trouve beau que la vie passe avant le succès commercial ou le pari.
C'est mon métier. Mais je comprends, un film, c'est très important. Parce que vous allez pouvoir continuer à travailler, vous allez accéder à d'autres choses, etc. On va vous regarder différemment. Mais ce n'est pas ma vie.
Non, mais c'est important. C'est bon d'entendre, j'entends.
Tu sens la mort à l'arrivée, si tu continues à poser des questions.
Là, il n'y a plus de vanne, Nagui, là. C'est fini.
J'ai pas peur.
Mais j'aime beaucoup Nagui.
Ça me rassure.
Il n'y a aucun problème. Il n'y aura jamais aucun problème entre Nagui et moi.
Il n'y a que du respect entre nous. C'est justement le titre qu'a choisi Camille.
Il est fort.
Mais oui, Alliance Ethnique, enfin. Mais c'est génial.
Tellement, mais je la connaissais par cœur. Mais d'un bout de...
Moi, je fais la voix de la fille.
Mais bien sûr.
C'est vibes.
C'est funky. Funky.
Bah quand tu grandis dans une cité à l'élève et que tu écoutes ça, tu rentres tout nu. Hein.
C'est vrai. Il nous manquait Alison Wheeler là.
Ça fait penser à Lou Garou.
On va dire clair, aucune ambiguïté. Sont sincères, oui c'est clair. Je vous parle de respect, je vous parle de des valeurs qui se perdent en effet. Oh! Oh, j'adore, mais oh là
là. Attends, c'est ma fille qui va parler après.
C'est l'année de mon bac.
Ah, tu veux le faire aussi? Ok, d'accord. On est plus chez nous. Hein.
Oh, come back on the funky track. J'adore qu'elle ait la partage avec moi. Cette passion d'alliance ethnique, je suis hyper contente. Je pense
j'espère
qu'il y a
que
beaucoup
Michel
de gens
Field,
qui
Michel Field n'écoute mais pas.
C'est terrible, c'est terrible ce qui se passe.
Je pense, Camille, qu'il est temps de rappeler que vous avez fait Hippocagne, Cagne.
C'est
aussi
vrai, c'est le bon moment quand on parle d'Alliance Ethnique. J'ai tout à fait fait Hippocagne,
Coco,
Cagne,
Alliance
et
Ethnique.
J'ai raté Normal Sup. Et peut-être que j'ai trop écouté Alliance Ethnique.
En fait, vous rêviez quoi? D'être prof, d'enseigner? Vous vouliez faire des études supérieures en littérature?
J'adore la littérature. Et je voulais quand même être comédienne depuis mes 6-7 ans. Hein, mais j'avais un grand-père qui est un grand intellectuel et que j'avais un peu envie d'impressionner, je crois. Donc,
avoir la reconnaissance familiale.
Oui, un peu. Ouais. Un peu. Donc j'ai fait Hippocagne-Cagne et puis quand même, je devais avoir un inconscient fort parce que j'ai bien foiré Normal Sup, le concours, alors que j'ai bossé hein, comme une dingue. Hein.
Je pense quand même
bien,
que vous avez quand même bluffé votre famille, toi, bien.
Ils étaient contents que au moins je leur ai prouvé que, bon, bah voilà, je m'étais donné les moyens et puis en fait, j'ai raté. Donc après, j'ai pu dire, bon, bah voilà, maintenant je vais faire du théâtre. Salut les gars. Mais voilà, j'ai tenté quand même. Et puis je trouve que c'est chouette, enfin, c'est toujours 2 ans d'apprentissage. De connaissances,
ouais.
De machin, voilà. Mais j'aurais bien aimé être prof. Et prof, je trouve que c'est génial, en fait. Je trouve que c'est génial. J'aurais bien aimé être prof ou journaliste. Quand j'avais genre 15-16 ans, je me disais, tiens, ces deux métiers, vraiment.
Vous avez trouvé un autre moyen de transmettre. Parce
exactement,
que
mais c'est la même chose. C'est ce que j'allais dire. C'est la transmission.
La comédie,
qui est
c'est ça. En 2006, Jean Reno, écoutez.
Je reprends l'avenue vers l'école.
Bien sûr.
Mon cartable. De coups de poing.
Puis quel mec adorable c'était aussi ce Claude Nougaro. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer.
Oui, j'ai traîné un peu avec lui, pas beaucoup malheureusement.
C'est un mec génial.
Mais je suis en train de lire une biographie là en ce moment, hier soir.
De Nougaro.
Et de Nougaro, ouais, ouais. On parlait tout à l'heure avant de lui. Beaucoup. Armstrong, je ne suis pas noir. Quel manque de peau, mais pour chanter l'espoir et tout ça. Il était extraordinairement généreux. En tout cas, avec moi, quoi.
Non, et puis il y avait toujours, vous parliez tout à l'heure de votre envie de faire là un rôle dans un film plus social, voire sociétal. Et lui, il y avait toujours. Et la mélodie, évidemment, et puis le fond qui était toujours extrêmement fort.
Exactement.
Et prenant. Et puis il a fait de très belles chansons aussi sur la paternité. À ce moment-là, vous tourniez Da Vinci Code de Ron Howard, vous avez été dans La Panthère Rose.
Da Vinci Code.
Moi, je pensais qu'elle allait rien dire, vraiment. J'ai essayé de revenir.
J'ai traîné sur le code.
Da Vinci Code. C'était mignon.
Parce que
ça vous rend humain, ça vous rend humain.
Parce qu'en Égypte, tu dis comme ça, c'est tout.
On verra ça quand on fera l'émission du Caire.
Écoute, cette émission en Égypte, j'y étais la semaine dernière.
Je voulais savoir quelle était la place de la musique quand vous travaillez. Est-ce que vous avez dans votre loge, dans votre caravane, un casque? Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous mettez dans des conditions particulières?
Il n'y a pas de musique. Pas du tout. C'est que ma tête, non.
Il est dégoûté, Nagui.
Non, je ne peux pas. C'est Luc Besson écrit en musique et j'ai toujours été étonné.
C'est-à-dire, Luc écrit en mettant de la musique dans la pièce.
Dans un casque.
Alliance ethnique.
Par exemple.
Peut-être pas. Oui.
Mais non. Moi, je préfère entendre ma petite musique intérieure.
Camille, en 2006, vous écrivez votre premier one-woman show et vous écoutiez.
Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis.
Mais bien sûr, moi, je suis hyper premier degré. Hein, donc, moi, c'est ma passion. Mais attendez, Amel Bent, pour moi, c'est une super féministe.
Ouais.
J'adore Amel Bent. Non, mais je défendrai Amel Bent envers.
Elle n'est pas attaquée.
Parce que Frédéric Zegris rit.
Non, mais je ris parce que je repense à quelque chose de drôle qu'on m'a raconté avant de venir.
Tu vas. Assume.
À mon avis, elle peut faire n'écoutez pas les paroles.
N'écoutez pas, ça n'oubliez pas. Jean.
Elle peut faire n'écoutez pas les paroles.
N'écoutez pas cette parole.
Tu ne peux pas nommer. On ne peut pas nommer.
Très bien. Il détourne le titre pour me faire un peu la C'est malin. C'est malin.
Ah ouais, avec des fausses paroles.
Le premier One Woman Show, est-ce que c'est comme un livre, c'est forcément autobiographique?
De toute façon, moi, je pense que l'écriture est, enfin, en ce qui me concerne, hein, est forcément autobiographique, mais parce que moi, c'est la seule chose que je sais faire. Il y a des gens qui font des choses pas du tout autobiographiques et totalement fictionnelles et fantastiques. Moi, la seule chose que je sais faire, c'est d'observer autour de moi et moi-même, et de convertir tout ce que je vis avec un prisme humoristique, mais c'est... voilà.
Quel sentiment on a quand on est seul sur scène et qu'il y a 200, 300, 400 écadrilles en même temps sur une vanne et préparée plusieurs mois d'avance ?
Ne plus être seul. En fait, c'est marrant parce que c'est un truc très solitaire. En effet, l'exercice du solo en scène, enfin du one woman show, mais donc effectivement les tournées, les loges, etc. C'est quand même la tristesse hein, d'être seul. On va pas se voiler la face. Mais le moment de scène est magique parce que c'est, moi je trouve que c'est un des moments de la vie où j'ai le plus conscience que nous en fait on n'est pas seul. Si des gens rient sur des trucs qui sont très personnels à vous, des détails de votre vie que vous tournez en dérision, en ridicule ou en empathie, et qu'il y a une voilà, qu'il y a une résonance et que ça fait rire les gens, mais c'est extraordinaire parce que quand vous êtes auteur, vous le voyez pas ce moment, vous l'avez pas, vous avez pas accès à ce moment, à part quand vous faites une dédicace de votre bouquin et que la personne va vous dire, mais là c'est en prise directe. Au cinéma on le voit pas, là c'est en prise directe, il y a des gens devant vous qui vous disent mais oui j'adhère complètement, j'ai vécu ce moment moi aussi où je suis en empathie avec ça, et ça c'est inouï. C'est des moments qui défient, je sais pas, le temps, la mort, la vie. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est des moments qui défient.
Alors,
je
rappelle qu'un nouveau spectacle maintenant, après Né sous Giscard, qui était déjà une bombe réelle,
Merci.
L'esprit de contradiction, c'est jusqu'au 30 mars, au théâtre du Petit Saint-Martin et du
mardi. Brillamment mis en scène par Camille Cotin, parce que je lui dois énormément sur ce spectacle.
Du mardi au samedi. Oh. Reparlons donc de Mes Trésors, ce film où Jean Reno incarne un braqueur, comme le dit la pub, avec deux bras cassés, c'est-à-dire ces deux filles. Non, mais le slogan est bien trouvé, on a demandé à Stéphane Carré de venir. Bonjour, merci d'être à ce micro. Vous êtes diplômé de l'Institut de Criminologie et d'Analyse en Menaces Criminelles Contemporaines à Paris 2, Master 2 de Sécurité Intérieure, Université de Nice. Vous animez également un site spécialisé qui s'appelle crimorgue.com. Vous avez publié Planète Mafia, les nouveaux parrains à l'assaut du monde. Enfin bref, vous vous y connaissez en crime. Vous êtes même co-auteur d'un Que sais-je sur le crime organisé. Moi, c'est le côté gangster de père en fils ou de père en fille qui m'a évidemment interpellé dans le film. Ça existe, c'est courant.
Alors, on en trouve un peu dans le milieu du braquage, moins dans le milieu du crime organisé traditionnel où c'est du racket, gestion de boîte de nuit, etc. On en trouve dans le milieu corse notamment. On a, et c'est plutôt rare, on a à ma connaissance un seul cas en France de père qui a transmis entre guillemets. Son métier à sa fille dans le sud de la France, la famille Merlini dont le père était abattu, mais c'est à peu près la seule cas, et encore le père voulait éviter que sa fille suive les mêmes traces.
Donc là on est avec du gros banditisme sérieux, voire le crime. Dans le film on est dans Arsène Lupin, pour reprendre encore une fois cette expression, c'est-à-dire pas d'armes, pas de blessures, pas de mort, c'est plutôt je suis élégant et souriant et gentleman. Ça existe ou non, c'est dans les films seulement?
Ça existait dans les années 70-80, les braqueurs existaient. On va dire que la fin de l'âge d'or du braquage, c'est le gang des postiches dans les années 80. À partir de là, les banques ont doublé les systèmes de sécurité et c'était de plus en plus difficile de braquer les banques. Donc on a actuellement ce qu'on appelle des braquages de proximité. Donc on va s'en prendre à Superette d'à côté, on va prendre 200 €, cartouche de cigarette et...
Mais généralement c'est armé.
Et c'est en général, c'est armé, c'est par des jeunes.
C'est pas des pickpockets,
c'est pas du grand banditisme, c'est des jeunes, ils sont parfois sous stupéfiants, donc ça peut défourailler assez vite. Le genre de personnage qu'interprète Jean Reno, c'est-à-dire des personnages flamboyants à la Spaghieri, etc., ça n'existe quasiment plus. Il y en a quelques-uns encore qui existent. On a en tête les Ferrara, les Redouane Faïd, etc. Mais ça reste quasiment peanuts dans l'histoire criminelle.
Et la notion de famille, justement, chez les bandits, vous faites une moue, pourquoi ? Parce que c'est très relatif, c'est ça ?
C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile.
Il manquera plus que ça.
Voilà, y a pas d'horaire fixe, il y a pas de salaire fixe.
Exactement.
Il manque de RTT. On est parfois en cavale. Non, mais il y a des primes. La vie de famille est quasiment inexistante s'il y en a une au départ. Donc vraiment, c'est un gâchis pour les. On voit dans le film les personnages féminines n'ont pas connu leur père. Donc il y a une absence des personnes déjà si elles sont en activité libre.
Donc ça, pardon, c'est ce qu'il y a de plus réaliste pour vous, c'est-à-dire le fait que le père soit braqueur, bandit, gangster.
La déstructuration de la famille, oui.
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 C'est pas possible. On peut pas être père de famille et bandit, quoi.
Sûrement, ça existe, mais non, c'est pas facile.
Nagui, vous êtes un bon père, pourtant.
En plus, la logique des choses veuille et que ça se finisse en prison. Donc, il y a aussi la version prison. Il y a les perquisitions. Alors, même si c'est fait avec un certain professionnalisme à part des forces de l'ordre qui ont l'habitude de gérer les enfants à 6h du matin quand ils interviennent. Bon, on prépare les enfants pour aller à l'école. Donc, ils assistent à ça, mais c'est évidemment un choc psychologique. La prison, visite en prison, etc. C'est pas une vie.
Quand vous avez fait un que sais-je sur le crime organisé, ça veut dire que c'est tout un système parallèle, une société avec une hiérarchie, un grand chef et des sous-chefs.
Alors hiérarchie.
Ça veut dire organisé, ça veut dire quoi en fait? Un réseau.
Alors un réseau, oui, c'est plus une. C'est des professions c'est professions d'habitude en fait. Ce que vous appelez hiérarchie, vous, c'est ce qu'on va retrouver dans les mafias italiennes notamment, où là, pour le coup, la famille est plus présente parce que c'est un monde méditerranéen, parce que c'est clanique et quasiment les enfants sont imprégnés de cette philosophie entre guillemets, de cette mafiosité dès l'enfance. Ça, c'est le rôle des femmes qui n'ont pas de rôle actif dans l'organisation, mais qui a ce passage de témoin. Il y a une espèce de rite de passage à la naissance dans la mafia calabraise. On présente à l'enfant qui vient de naître deux symboles, un poignard, donc symbole de la mafia, et des clés qui représentent la prison. Et on va faire choisir, entre guillemets, au gamin le.
À la naissance.
Voilà. Sauf évidemment qu'on va. Le poignard va être approché. Enfin bon. Voilà.
Mais on va tout faire pour qu'il choisisse le poignard, vous voulez dire.
C'est ça. Mais symboliquement, il y a une transmission.
On lui a au moins
fait. Mais quoi, s'il choisit les clés, quoi.
Oui.
Il est puni.
Ça n'arrive jamais.
On le jette à une falaise.
C'est fait pour que. Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et à quel point, alors, en termes de loi, un enfant peut être, par rapport à son père, jugé de complice ou pas? C'est-à-dire un enfant qui sait que son père a volé, mais qui ne le dénonce pas. Situation.
Enfant et femme. Alors les femmes, pour qu'elles soient impliquées comme complices, faut vraiment qu'elles aient un rôle actif. En général, il y a les gardes à vue, etc. Il y a les saisies des avoirs criminels. Donc, si on place la femme à la tête. D'une boîte de nuit, d'une société quelconque est saisie, donc compliqué. Il y a souvent des gardes à vue. Pour les enfants, non, il y a quand même une excuse ou de
j'aime mon papa, je vais pas le balancer.
C'est ça. Et pour les femmes aussi, enfin, si elles sont condamnées, elles le sont à des peines réduites ou avec sursis, etc.
Enfin, c'est quand même pas. J'aime beaucoup cette deuxième partie de l'émission, braquer nuit à la santé pour les services publics. On parle d'un film de braqueur, mais attention, il y a quand même des conséquences, les amis.
Moi, j'aime bien ce côté.
Ah bah oui,
diplômé en criminologie et surtout l'histoire du couteau et des clés.
Il y avait un bouquin de Philippe Jaénada il y a 2-3 ans qui est sorti sur un type qui a fait des braquages incroyables. Incroyable sans armes dans les années 80, ça m'énerve parce que depuis tard je cherche son nom.
Bernard Tapie.
C'est bien d'avoir un cycliste.
Attention, il va venir.
Faut toujours avoir un cycliste. Merci Stéphane Carré. Portez-vous bien. Je rappelle, c'est chez Que sais-je. Vous êtes co-auteur avec Xavier Hoffer de ce livre, entre autres, sur le crime organisé. Daniel Morin, on voit bien qu'être enfant de gangster, ça peut marcher une vie, même parfois empêcher. Ça peut marquer, une vie, même parfois empêcher de réussir sa propre vie.
C'est ce qui se passe. Yes, 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 yes. Putain, c'est génial. Dès le mardi, vous plongez dans le grand bain de l'inspiration, monsieur Guy. C'est sublime. Bon, ce matin, intellectuellement, on a encore pied. Mais saluons quand même l'effort.
Ouais.
Non, vous avez dit une connerie, monsieur Guy. Pourtant, il suffisait de faire un tour dans les couloirs pour mener une rapide enquête et voir qu'être enfant de gangster n'empêche pas de réussir sa vie. Regardez. Patrick Cohen, dont le père était Landru. Laetitia Gaillet, la fille d'Emile Louis, s'en sont plutôt bien sortis. Bien sûr, il y a des exemples plus difficiles que d'autres. Jean-Claude, par exemple. Jean-Claude Dieter, fils de qui vous savez. Il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un soit là pour lui rappeler les bêtises de papa. Mais à part Jean-Claude, je ne vois pas. Autre exemple, moi. Moi, enfant, à la généalogie est plutôt compliqué. Ma mère, condamnée plusieurs fois pour cruauté, acte de barbarie sur les membres de sa propre famille. Ma mère, à 13 ans, avait bouffé sa sœur. Et mon père, je ne vous raconte pas le pédigré, à 20 ans, il avait déjà fait 15 ans de tôle. Au CP, un hiver, il avait froid, il a mis le feu à la maîtresse. Enfin, tout cela ne m'a pas empêché de devenir un être équilibré et plutôt sain d'esprit. Bon, maintenant, il ne faut pas me faire chier non plus. Hein. Ce matin, on m'a reproché d'avoir jeté un vigile du toit de Radio France. En même temps, j'étais dans mon bon droit, il m'a emmerdé pour une histoire de cigarette. Il paraît que c'est interdit de fumer dans les établissements publics. Bref, tout ça pour dire, monsieur Geek, une fois encore, je suis désolé. Mais force est de constater que vous avez dit...
N'importe quoi. Merci Daniel et Morin. Jean Reno et Camille Chaboux sont nos invités jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leila Kadour-Boudadi, Frédéric Zipsigriste, Tom Villa, Daniel Morin, Richard Romain nous accompagne au clavier, et nos invités sont Camille Chamou et Jean Reno. Dans ce film où Camille Chamou, Jean Reno joue avec Kim Kérissi, Bruno Sanchez, Pascal Demolon et...
Kérissi, parce que tu as dit Kim Kérissi.
Ah oui, d'accord. Donc moi, on se met parce que je donne des noms italiens.
Ton œil a été vers le café. Tu as fait une petite inversion, mais c'est parce que ton œil va trop vite, c'est pour
non,
ça.
Mais c'est bien parce qu'on aime bien répéter son nom parce qu'elle est fantastique. C'est Rim Kérissi. C'est
noir de Kérissi.
Mais on réécoute un Nagui, sinon tu veux continuer à faire l'émission ou pas?
Très bonne réalisatrice d'ailleurs.
Oui, exactement.
Absolument. Ouais. Qui a fait son pari à tout prix. Ouais. Et on a hâte de voir.
C'est elle.
Ouais, absolument. Jour J, c'est le prochain. Ouais. Et qui, vous avez déjà une date de sortie, vous, quatre copines?
Ouais, et absolument. Je crois qu'elle sort en mars.
Génial.
Enfin, c'est vrai.
Deuxième semaine
février.
De mars.
Le mec, il dit n'importe quoi. Mais avec un aplomb qui est déstabilisant. Bref, d'autant
que. Défendez-moi, Jean.
Là, c'est le téléphone qui sonne.
Ouais, tout à fait.
C'est la sonnerie du téléphone dans le film.
C'est la sonnerie du téléphone de papa dans le film. De ma mère. On parle de quel film? Mes trésors. Voilà. Je suis Camille Chamou. Je suis Jean Reno. Voilà. Non, ça c'est la sonnerie de téléphone quand ma mère m'appelle. Oui, parce que c'est mon personnage est complètement
bouffé par sa mère.
Et effectivement, à chaque fois.
C'est super drôle.
T'es pas là, t'es où? Moi aussi, ça m'a fait hyper rire. Parce qu'en plus, ils l'ont rajouté après pendant le film. Ils n'avaient pas encore la sonnerie. Quand on a fait le film, et je savais pas qu'ils allaient mettre ça. Et moi, quand j'ai vu le film la première fois, et qu'à chaque fois que ma mère m'appelle dans le film, t'es pas là, t'es où? J'en pouvais plus. D'ailleurs, c'est Sinclair qui a fait la musique du film.
Ah non, c'est Yannet.
J'en ai marre, non, mais ça. La musique du film Le Trésor, pas t'es où? Et elle est vachement bien.
Et la musique est bien, et il y a quand même une choré. Il y a une choré de Jean Reno et vous qui vous.
Absolument.
Vous avez le groove, hein, Jean. Quand vous bougez, oui.
Et ça, c'est répété ou c'est improvisé, Jean?
Et taratata.
Quand vous faites la chorégraphie?
On l'a travaillé avec une jeune fille dont malheureusement j'ai oublié le prénom.
Moi aussi.
Rim Kérissi.
On l'a bien travaillé.
Non, mais en tout cas, ça marche bien. La musique est efficace. On a la neige, on a la montagne.
C'est un endroit incroyable, Courchevel. Je ne connaissais pas. J'ai découvert.
Comme moi. Et j'ai découvert aussi les restaurants de Courchevel avec Jean Reno, qui aime beaucoup la bouffe. C'est super, parce qu'on découvre. On se fait des bonnes soirées, je peux vous dire.
Bien travaillé, il faut bien manger.
Donc, ça se passe à Courchevel, vous l'avez compris, dans un sublime palace.
Oui.
Où t'es pas là.
Les GRL, pour ne pas le nommer.
D'accord.
C'est excellent, ça.
Tout,
c'est
incroyable. Tout s'est passé dans ce hôtel.
Pratiquement, moi, je voulais pas sortir de ma chambre. C'est sur mon contrat. Il ne sortira pas de sa chambre. Venez le filmer.
Non, il y a aussi beaucoup d'extérieur. Il y a aussi beaucoup d'extérieur parce que c'est la montagne. Donc, on en a profité parce que c'est manger des paysages magnifiques.
Oui, non, mais c'est vrai que dans les scènes de montagne, on voit pas Jean Reno. Jean Reno, on le voit dans les scènes.
C'est
une blague. Non, mais blague.
C'est ça, les grandes stars.
Blague à part, en tout cas, ce chalet. Ce chalet de luxe existe, et c'est là où une grande ou une richissime russe veut s'emparer d'un violon
qui est joué par une espagnole.
d'un Stradivarius pour l'offrir à son fils qui est un prodige, qui a 7-8 ans, un truc comme
exactement.
Ça.
Voilà. Et c'est là que nous intervenons.
Et c'est là que vous intervenez. Et d'ailleurs, la toute première scène du film, et c'est vous, Jean Reno, en voleur, en braqueur de ce Stradivarius, un peu à la Mission Impossible, déjà avec cette espèce de,
voilà,
de
masque. Voilà, un petit clin d'œil du réalisateur à cet excellent Tom Cruise.
Oui. Non, mais ça marche extrêmement bien.
Je peux
bien.
Dire ça.
Oui, vous pouvez tout dire.
C'est bien.
On peut parler de scientologie ou pas aussi. On peut tout dire. On peut tout dire.
Ah, oui. Ça, on n'aime pas trop.
Écoutez, on regarde le cinéma.
Exactement.
On n'a pas à juger ce qui se passe dans la vie privée des gens.
Non.
C'est Tom Cruise.
Moi, c'est un mec.
Moi, j'ai vu Top Gun la semaine dernière.
Ouais, il est très mauvais dedans. La féologie.
Il a cherché à vous embrigader dans la scientologie ou pas?
Pas du tout.
Ah, bon,
il était totalement absent de toute conversation
un peu
intelligente.
Carrément. Ah oui, d'accord.
Absent.
D'accord.
C'est un bon souvenir.
Pour son anniversaire, il nous avait invités, donc il a réservé tout le restaurant. Donc j'ai été assez impressionné. Et moi, je ne savais pas quoi lui offrir. Alors j'ai offert toutes les pièces de théâtre de Molière. Mm-hmm. Il a regardé ça comme s'il regardait un vieux fromage. Il s'est dit, ce con de
français,
français m'a offert un fromage.
Vous lui avez offert en français ou en anglais les livres?
En français,
ah,
évidemment. Bah
oui.
Bah oui, quand même, qu'il fasse un peu l'effort.
Merde,
J'adore
une scène de Mission Impossible. Du coup, vous avez regardé le tennis toute l'après-midi?
Non, on avait l'habitude de regarder le tennis parce que c'est très long. Brian De Palma n'était pas en forme à cette époque-là. C'est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Mais lui a refusé de tourner parce qu'il était en discussion avec Stanley Kubrick pour faire les yeux grand fermés.
Eyes Wide Shut.
Ouais.
Voici l'humeur. On va passer à quelqu'un de cette beaucoup plus généreux. Voici l'humeur de Daniel Morin. C'est vrai, c'est tellement généreux, Daniel.
Il a pris des couleurs quand même depuis la dernière fois. Hein.
Je vous concède. Ouais.
On m'a offert un week-end pour les fêtes.
Voilà. C'est vrai.
Pourtant aujourd'hui, j'ai pas envie de rire. Je suis d'humeur maussade, mon bon monsieur Guy.
Ouais.
Bon. Mauvaise nouvelle, elle est tombée comme ça, sans prévenir, de façon si brutale que douloureuse. J'ai lu la news sur voici.fr, mon site référence d'info culturelle. Non, ne riez pas. Matt Pokora va faire une pause dans sa carrière.
Ah, ça me fait de la peine, ça.
Ouais, comme à nous tous. Bah, le succès de son album de reprise de Claude François, la tournée qui n'en finit pas. Au bout du rouleau, Matt. Tout Pokora qu'il naît, il n'en est pas moins homme, avec ses forces, certes, mais aussi ses faiblesses.
On compatit.
On est peu de choses, c'est vrai.
Alors, il va finir sa tournée, ok, mais juste après, ce sera l'heure de la pause, une grande pause, puis voilà, il va prendre le temps, Matt, le temps de réfléchir, d'envisager l'avenir.
Et c'est possible.
Peut-être passer son brevet des collèges. Je ne sais pas, lui non plus. C'est courageux, Matt, c'est courageux, oui, mais en même temps, c'est tellement égoïste de ta part. Tu n'as pas l'air de te rendre compte de l'impact que tu as sur nos vies, Matt.
Et Camille, elle est mal.
Et Jean aussi. Moi, le matin, quand je me lève, c'est grâce à toi, Matt. Quand aux premières lueurs du jour encore timide, mon œil droit se défait de son épaisse couette de paupières, c'est pour te voir, Matt. Oui, tu es en poster sur le mur de ma chambre. Tu es entre Nagui et Patrick Balkany. Mes trois héros, mes trois exemples, mes trois mentors, mes trois sources d'inspiration. Tu es torse nu, le muscle luisant et le tatouage arrogant. Sur ton torse imberbe d'icône métrosexuelle se promène fougueuse dans sa balade pectorale, une chaîne en or d'environ 500 grammes qui te donne des allures de proxénète albanais et ça te va plutôt bien. Oui, tu portes avec panache ce que certains appellent le mauvais goût, mais toi tu le fais avec une certaine élégance, Matt. C'est une de tes grandes forces. Tu es aussi beau que ton voisin de mur, Nagui le torride. Nagui, dans la photo, est tiré d'un vieux calendrier à l'époque où il était gogo danseur dans un club gay d'Alexandrie. Déjà star à l'époque, il était connu pour faire virevolter son énorme virilité dans tous les sens à l'occasion d'un numéro intitulé...
L'hélicoptère.
Non. Nagui et le cobra du Nil. Bref, tu ne peux pas nous faire ça, Matt. Toi, dont les tubes incontournables accompagnent nos vies à tous. Matt Pokora, dont les tubes que tout le monde connaît par cœur. Matt, c'est lui qui a fait Oh là là. Putain, c'est génial, hein. Mais Matt, c'est aussi, attention, des chansons à texte, et attention, plutôt engagées. Oh, putain. Non, mais, y a pas rien, là. Merde, on sent le cri de colère, là. Ça vient d'hyper loin.
Bon, ça s'entend pas tout de suite, la colère et le combat. Mais quand on connaît la carrière de Matt, on comprend. Pas étonnant qu'il ait fait autant de taratata, le mec. Putain, c'est ça, les articles complexes. Il faut passer du temps. Ça se mérite. En tout cas, Matt, si tu m'écoutes, sache que, si ça va être dur, très dur, même de supporter ta peau, je comprends ta fatigue. Le génie, bien placé pour en parler, ça épuise. Et puis, si tu voulais faire un break définitif, ça te regarde et personne ne t'en voudra. Bisous, à demain.
La bande originale. Donc, à l'affiche de Mes Trésors, le film sort demain avec Jean Reno et Camille Chamou qui sont nos invités. Camille est également à l'affiche de Faut pas lui dire, qui sortira également demain. Avec Jennifer Bartoli, Stéphanie Crayancourt, Tania Garbarski et Brigitte. Solange et vous êtes toutes les filles de Brigitte Fossé.
Oui. Tout
pas,
à fait.
Pas mal quand même dans la vie aussi. Ouais. Quant à vous, Jean Reno, c'est la semaine prochaine qu'il faudra attendre votre deuxième film de l'année 2017. Vous serez l'affiche de
The Last Face, yes.
Oui. De Sean Payne avec Charlize Theron, Javier Bardem.
J'étais pas au courant.
Comment ça, vous n'étiez pas au courant?
Non, du tout.
Ils vous ont fait une Disney Star Wars? Non,
je savais pas qu'ils sortaient aussi vite. Je pensais que c'était fin janvier. Mais bon, j'ai vu l'affiche aujourd'hui. Une belle affiche.
Vous avez vu le film?
J'ai vu le film. C'est un film que j'aime beaucoup, qui n'a pas été très bien reçu à Cannes, mais que j'aime beaucoup.
Vous dites que Sean Penn est un ange pour vous.
Il a été un ange. J'ai passé 2 mois avec lui et c'est un metteur en scène avec moi extraordinaire.
Vous avez encore des rêves inassouvis dans le monde du cinéma, dans votre métier? Vous avez encore...
Vous pensez
avoir eu la chance déjà de connaître...
Il y a des tas de choses à faire, des tas de partenaires avec qui travailler... Regarde, j'ai fait un film avec 2 jeunes filles formidables. Non, il reste. On continue. Redécouvrir. Parce que je vais oublier très vite tout ce qu'on est en train de se dire. Mes trésors vont sortir et puis je vais l'oublier. Et je vais aller chercher autre chose, une autre aventure, d'autres cieux. Je ne sais pas comment le dire. Et j'ai un copain à Madrid qui est en train d'écrire un film dans le Sahara. Je n'ai jamais tourné en Afrique. Et donc j'aimerais partir en Afrique. Et faire quelque chose.
Donc en fait, à travers les rôles, vous cherchez des expériences personnelles nouvelles à vivre.
Oui, j'essaye de reculer ma mort, sans doute.
Et voir des expériences utiles, quand vous dites tout à l'heure vouloir faire un film qui parle de société ou de problèmes sociaux, vous voulez que ce soit utile.
Traverser les gens et que les gens te traversent, ça a été toute ma vie, c'est la vie de tout le monde au fond, et je cherche ça.
En attendant, donc, Mes Trésors sortira demain au cinéma et vous voulez sortir de leur promotion.
Oui.
Camille Chamou et Jean Reno.
Absolument.
Voici le brouillon de culture de Leïla.
Voilà, comme indiqué, Camille, Jean, c'est notre brouillon de culture. On sort de la promo, un petit bol d'air, histoire d'apprendre un peu à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Camille.
Il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas encore ce que c'est que l'endométriose. Alors rassurez-vous, moi-même, il y a 4 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'endométriose. Et pourtant, j'ai une endométriose depuis que j'ai 14 ans. Alors je le dis, hein, parce que voilà, j'ai une endométriose, parce que c'est un petit peu le problème numéro 1 avec cette maladie, c'est que... Mais comme toutes les questions de santé féminine un peu tabou, comme ça, personne n'ose vraiment en parler, même pas les gens qui en ont. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme quand vous partez en vacances avec un groupe de potes et puis tout le monde a la gastro et personne n'ose se le dire.
Voilà, c'est vous, Camille Chamou, en introduction du concert d'Imani, un concert de sensibilisation à l'endométriose. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est?
Oui, c'est une maladie qui concerne 1 femme sur 10, donc c'est très très répandu. Mm-hmm. En revanche, c'est vrai, comme je le dis en introduction, que les questions de santé féminine sont encore assez taboues, même si ça change évidemment, etc. Moi j'ai cette maladie, Imani aussi, donc on a décidé d'en parler pour que ça cesse d'être tabou, parce que voilà, c'est une maladie qui fait énormément souffrir les femmes pendant leurs règles, mm-hmm. et puis qui pose également des problèmes de fertilité, puis d'énormes problèmes en général. Et en fait, nous, ça nous a un peu alpagué quand même de se dire, il y a des journées mondiales pour les maladies, parce que t'as mal dans les mains, parce que tu tapes trop à l'ordinateur, ou des mecs qui ont dit, on a mal au dos, nous, à force quand même d'être assis dans des conférences ou je sais pas quoi, et t'es là. Oui, mais il y a vraiment 1 femme sur 10, en fait, qui souffre comme des bêtes pendant leurs règles, et qui ont des problèmes de fertilité à cause de cette maladie, et personne ne parle jamais de cette maladie. Donc, en fait, on a décidé d'en parler. Puis il y a une association fantastique qui s'appelle Endomind et qui essaye de parler un petit peu de cette maladie. Et puis le tout, c'est que ce soit pas tabou, c'est tout, quoi.
Mais voilà, il était temps d'en parler. Je vous dis bravo.
Mais surtout, merci.
Il y a des traitements ?
Alors, il n'y a pas vraiment de traitement, puisque c'est ça qui est extraordinaire, c'est que comme la recherche ne s'est penchée sur cette maladie que depuis vraiment très très peu d'années.
D'accord.
Ça fait 5-6 ans que ça...
Non seulement on n'en parlait pas, mais
on parlait
se voilait
pas,
la face.
De toute façon, quand vous avez mal pendant vos règles, quand vous êtes une fille, on vous dit, bah, c'est normal, t'as tes règles, écoute,
souffre, et attends.
Souffre. Alors qu'il n'y a aucun autre cas de la santé générale sur lequel on dit ça. Généralement, si on dit j'ai très très mal à la tête, on va pas vous dire, eh ben écoute, c'est une migraine, souffre. On va dire, tiens, voilà un bon effet algant. Enfin, sans vouloir faire de pub pour aucun médicament.
Alors allons-y, aspirine, doliprane, Nurofen.
Donc voilà, non mais c'est voilà, j'ai trouvé que le travail d'Imani là-dessus, de communiquer là-dessus, était intéressant. Et donc voilà, j'ai
et elle le fait systématiquement dès qu'elle fait participer à une émission.
C'est une super artiste.
Ouais, absolument.
Laura Blanc, dans l'humanité, une personne sur deux est une femme. Alors voilà, et on poursuit, bah il paraît. On poursuit avec un son pour vous, Jean.
Vous savez, quand on arrive sur ce genre de plateau, on n'arrive jamais seul. Allez, c'est bon. On n'arrive jamais seul. Il y a beaucoup de monde derrière vous. Il y a tous ceux qui vous ont donné l'amour du cinéma. Et puis, il y a ceux qui vous ont permis, excusez-moi, de réaliser un rêve, de réaliser en effet une fiction.
C'est votre camarade Didier Flamand.
Ah oui.
Très ému. C'était en 95 qu'il a reçu le César du meilleur court-métrage pour La Vis.
J'ai pas reconnu sa voix au début, le pauvre il était.
Il est très ému en tout cas là. Oui.
Il avait aussi été nommé aux Oscars pour ce court-métrage. Oui. Je voulais vous faire entendre la voix de Didier Flamand parce que déjà son émotion était belle et puis parce que j'ai envie de vous parler de théâtre. Il vous a mis en scène 4 fois depuis vos débuts. C'était en 77, en 78, en 79 et en 81. C'est une rencontre importante dans le théâtre pour vous.
Très, très, très. C'est avec lui que j'ai commencé à travailler vraiment et à être reconnu. Oui, oui, oui. Il est du signe du poisson. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu me dis ça? Parce que Luc Besson est du signe du poisson aussi. Et donc, ce sont deux poissons qui vous ont
porté chance.
Champagne, je ne sais pas de quel signe il est, mais voilà. C'est tout.
Je ne savais même pas que tu avais fait beaucoup de théâtre, Jean Reno.
Et vous avez travaillé avec les plus grands.
Ça sert à ça, la télé, la radio.
Vous avez travaillé...
Surtout Inter.
Elle a parlé merveilleusement bien. Est-ce que je peux dire un mot sur une maladie qui est assez intéressante, qui est le diabète, par exemple, parce que j'ai été le parrain de la journée du diabète en France. Et je voudrais simplement dire que lorsqu'on a du diabète avec un peu de discipline, on peut bien vivre et surtout on peut vivre très vieux. Un peu de discipline, c'est une maladie qui paraît un peu comme ça, difficile à appréhender, mais non. Si on a un peu de discipline, encore une fois, je le dis.
C'est maîtrisable.
Voilà, c'est maîtrisable. D'accord. On a une vie amoureuse normale et on peut vivre vieux. Pensez-y.
C'est plein d'espoir, cette émission.
Dépistez-vous.
Moi, j'aimerais qu'on mette un petit coup de projecteur sur le Panari. Parce que bien soigné. Moi, c'est pas douloureux.
Abattez-le. Surtout qu'on n'oublie pas le Zona aussi, qui continue quand même.
Vous ne respectez rien.
Germaine, il y a quelqu'un dans la cour, on va chercher le fusil.
Vous ne respectez rien.
Et juste pour finir sur le théâtre, Jean Reno, pour
préciser
que vous avez quand même travaillé avec les plus grands. Vous avez été mis en scène par Luc Bondy, c'était en 84, dans Terre étrange. D'Arthur Schnitzler. Vous avez bossé avec Roger Planchon aussi.
Oui,
c'était Andromaque de Racine.
Oui.
Vous en êtes où pour le théâtre? Quand est-ce que vous remontez sur les planches? La dernière fois qu'on a pu vous voir, c'était en 2015 avec Eric Assous, Nos Femmes.
Et Richard Berry, au Théâtre de Paris.
Ouais.
J'ai un projet en solitaire qui serait un récit avec un peu de musique. Pour raconter un peu les errances que j'ai eues et surtout les personnes que j'ai traversées et qui m'ont traversé.
Donc un spectacle que vous auriez écrit.
Que vous écrivez. Avec certaines personnes plus douées que moi.
Le projet lancé, quoi.
Ah ouais.
Oui, ça avance bien.
Et pour finir.
Vous avez déjà un titre de travail?
De Casa à Hollywood, pour le moment, ça s'appellera.
Ça le mérite d'être clair, en tout cas.
Et pour finir, un cadeau pour chacun d'entre vous.
Merci. Je vous aime. Vous êtes mariés?
On va en discuter.
C'est la première fois qu'on répond ça à cette question.
Non, mais J'ai vu le bouquin et déjà j'étais jaloux.
Alors il y en a un pour chacun, alors vous verrez lequel vous convient le mieux, vous vous débrouillez ensemble tous les deux. Je pensais pour vous, Camille, vous offrir un livre qui s'appelle Tous à la plage pour vous sortir de la neige de Courchevel et de Mes Trésors aux éditions Linart, qui revient sur l'histoire des villes balnéaires du 18e siècle à nos jours.
Faut bien voir, faut bien le prendre. Il n'y a aucun message, va en cure.
Mais pas du tout.
Ah, c'est bien cette saison.
C'est dans le cadre d'une exposition qui est donnée à Paris et on voit avec le temps l'évolution donc des installations, de l'architecture, comment toutes les villes de la Côte d'Azur notamment ont été façonnées par l'intérêt soudain que les gens avaient de venir en cure ou dans ces villes balnéaires.
Je suis en train d'écrire un film sur les vacances, donc c'est extraordinaire.
Wow. T'as bien fait de venir.
C'est votre premier film ?
J'ai écrit Les Gazelles, ouais. Et là j'écris un autre. C'est pas le film que je vais pas le réaliser moi.
Ah
c'est,
d'accord.
C'est Patrick Cassir qui va le réaliser, mais c'est un film sur les vacances.
Et pour vous, Jean, je vous offre Picasso Giacometti aux éditions Flammarion. Il y a une exposition en ce moment, je sais pas si vous avez
j'ai
le
vu
temps.
L'affiche, oui.
Voilà, d'y aller, c'est au musée Picasso qui met en parallèle le travail de Picasso et Giacometti, qui avaient tous les deux des rapports assez opposés dans la vie. Picasso, ce grand mec médiatique, flambeur, Giacometti qui vivait de rien et qui n'avait pas forcément conscience de la puissance de son art. Et en fait, on met en parallèle le travail de... le dialogue, en fait. Une sorte de dialogue sourd entre ces deux hommes. Et voilà, c'est une très très belle exposition.
Et voici
le catalogue. Voilà, le parallèle.
Ce que vous venez de dire, merci beaucoup, est dans l'affiche. On le voit là, regarde la différence entre les deux.
On voit bien la radio.
Mais en tout cas, non, c'est ce côté austère et ce côté. L'un avait compris qu'il devait utiliser les. L'un avait compris qu'il devait utiliser les armes médiatiques du moment et l'autre était totalement absent de toutes ces considérations médiatiques.
Wow. Mes Trésors, le film sort donc ce mercredi, ce 4 janvier. Demain, Jean Reno, Rime Kérissi, Camille Chamou. comme ça, j'ai bien prononcé. J'ai fait attention de bien lire au moment où je parlais. Bruno Sanchez. Il veut qu'on prononce comme ça aussi. Pascal de Molon, le rôle de Jean Reno étant celui d'un grand bandit internationalement recherché par toutes les polices, que l'on croit mort mais qui ne l'est pas, sinon évidemment c'est plus un film avec Jean Reno, c'est son hologramme, et qui décide de rattraper le temps perdu avec un dernier casse, mais cette fois-ci le casse c'est pour ses filles, qui découvrent donc qu'elles ont un papa en commun, elles se découvrent l'une et l'autre, Rime en l'occurrence, et Camille se retrouve donc toutes les deux confrontées avec ce papa, un tout petit peu trop présent, voire opulent. Et chacune va avoir une part de sa personnalité qui va se révéler. Ouais. Cette transformation-là qui donne des scènes extrêmement drôles. J'adore l'expression. Quand
beaucoup d'embrouilles.
Quand l'une s'énerve vis-à-vis de l'autre, avec Mademoiselle Je sais tout, Rime vous traite de Wikipétasse.
Wikipétasse.
Ça, j'adore. Ça, j'avoue que ça fait ma journée, ça, le Wikipétasse.
Wikipétasse, c'était pas mal.
Et pas les lèvres.
Merci, Wikipétasse. Ouais,
et les lèvres à voir dans le film. Ça s'appelle Mes Trésors. On a ri et on a beaucoup aimé en
merci
tout cas
beaucoup.
Ce film. Merci mille fois à vous. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour Rime Kérissi, qui a donc très très bien joui dans Mes Trésors, mais qui, on vient de l'apprendre, vient de porter plainte contre un animateur égyptien priapique, très connu des services de police et de France Télévisions. Désolé pour nos auditeurs mélomanes qui ont été quelque peu bouleversés par l'interprétation géniale d'Alliance Ethnique par Camille Lacalas-Chamou et Sheila Kadour Boudadi. Et c'est ça, France Inter 2017. Le CD est en vente à la Cantoche,
c'est
si
génial,
ça vous intéresse.
Et
désolé pour l'humour en général. Oui, Nagui s'est lancé.
T'es pas là,
T'es pas là. Oui, en deux secondes, il a désingué l'humour et Vianney à la fois. Bravo.
Allez, Georges Simenon était priapique.
Oui.
Encore un.
Oui, enfin moi c'est une vanne, hein, je vous rassure.
Non, mais on survit, hein.
On vit bien avec le priapisme.
Ben oui, mais la preuve.
Ah, comme le diabète. Encore une maladie comme le diabète.
Ah, on fait le tour. Et on dit pas assez que c'est douloureux.
Traitement.
C'est très douloureux. Ouais.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Comment ? Bah parce qu'on vit ensemble, Nagui.
Bon, tu veux un petit mot de...
C'est douloureux pour qui ?
C'est ça.
On va laisser le mystère.
Deviner, ça. Ouh, ça donnera lieu à un jeu la semaine prochaine. Make a funky.
Comment on va se quitter avec cette musique d'Alain
Setti.
Demain, c'est Samuel Le Bihan qui sera notre invité. Et justement, Samuel Le Bihan est au théâtre avec Pascal Demolon. Donc voilà, le lien est tout trouvé. Et je rappelle
vous l'embrassez de notre part, Pascal Demolon. Ah bah non, bah du coup, vous verrez ça.
Non, Samuel. On peut l'embrasser quand même.
Ouais, vous pouvez.
Qui c'est à qui?
Ça se fait.
Très aimable. Et je rappelle aussi que Camille est donc au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Mis en scène par qui?
Camille Cotin.
Ah, j'avais oublié. Voilà,
du mardi au samedi.
Il faut y aller parce que c'est réservé maintenant, c'est complet.
Non, ne nous en parlons pas. Merci Jean Reynaud, bonne continuation.
Merci à vous. Est-ce
qu'on peut encore le faire? Voilà, bonne santé surtout. Ouais, le reste, vous débrouillez.
De la santé.
On a parlé beaucoup des maladies, donc souhaitons une bonne santé à tout le monde.
Exactement.